BFM Radio.
Bonjour à tous, affaire suivante numéro 285, soyez les bienvenus au sommaire. Dominique, aujourd'hui, une enfant de 11 ans tuée, un jeune homme de 23 ans en détention, la ville d'Épinay-sur-Orge sous le choc et au-delà, un drame qui heurte et qui traumatise. Affaire suivante revient sur le meurtre de la petite Louise il y a une semaine, qui est Owen, le meurtrier présumé. Pourquoi s'en est-il pris à cet élève de 6e? Témoignage, analyse sur le plateau dans un instant.
Qui a tué Christiane Como, retrouvée dans un bois du département de l'Ain en 2005, après 20 ans d'enquête et de pistes jamais concluantes, Ronald? La question reste sans réponse, mais l'enquête a été reprise par le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, avec comme point de départ de nouvelles analyses ADN. Deux membres de la famille de Christiane Como seront avec nous sur le plateau d'affaires suivant.
Et puis Dominique, nous recevrons Maître Emmanuel Franck, celle qui est notamment l'avocate de Cédric Jubillar, publie un ouvrage « Comment pouvez-vous les défendre ?» des parloirs aux cours d'assises. Elle nous racontera les dilemmes quotidiens des avocats.
Et on commence tout de suite, Ronald.
Affaire suivante, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Louise avait 11 ans. La vie de cet élève de 6e du collège André Mauroy d'Épinay-sur-Orge s'est arrêtée il y a un peu plus d'une semaine dans un bois à quelques centaines de mètres du domicile où ses parents s'inquiétaient de ne pas la voir. À l'issue d'une enquête sur fond de psychose, son meurtrier présumé a été arrêté, mis en examen et placé en détention. Qui est-il? Enquête d'Elisa Tradin pour affaire suivante.
Il lui a fallu une dizaine de minutes pour commettre son crime, puis rentrer chez lui en courant. Ce vendredi 7 février, en début d'après-midi, Owen L. demande à sa petite amie de soigner ses plaies. Elle l'interroge alors sur le sang qui couvre ses mains.
Il lui disait d'abord être tombé, avant de lui raconter, après qu'elle avait insisté, qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à une collégienne qu'il disait ne pas connaître. Elle lui mettait un pansement.
Qui est réellement Owen L., ce criminel qui a eu immédiatement la présence d'esprit d'arroser de Javel les preuves de son implication? Ou ce jeune homme frêle, se présentant mercredi en sanglots devant le juge des libertés et de la détention? Dans ce quartier d'Épinay-sur-Orge, la famille d'Owen L., plutôt aisée, est réputée sans histoire. Mais dans le huis clos familial, les conflits sont monnaie courante. La petite sœur du suspect le décrit comme agressif et ne lui parle plus depuis avril 2023. À cette époque, elle a même déposé une main courante contre lui.
Il était violent, même sa sœur, elle me l'a déjà dit à moi personnellement que son frère était violent. Il y a eu des échos comme quoi il a eu des embrouilles avec sa famille, comme quoi, à ce qui paraît, sa famille l'aurait déjà mis à la porte, quoi.
Dans son club de foot, certains se souviennent d'un coéquipier parfois menaçant.
Il disait qu'il pouvait sortir une arme blanche, qu'il allait lui faire la peau, etc.
À 23 ans, l'étudiant en BTS informatique vit toujours chez ses parents. Sans stage, il passe beaucoup de temps à jouer en ligne et, selon ses proches, s'énerve facilement contre ses adversaires de jeux vidéo. La frustration, une colère incontrôlable, l'aurait selon lui conduit à tuer Louise cet après-midi-là.
Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, paniqué par ses cris. Il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau.
Owen L. a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé.
Et Dominique, pour évoquer la mort de la petite Louise, nous accueillons ensemble sur le plateau le docteur Marine Baranès. Bonjour. Psychologue, expert judiciaire, spécialiste du traumatisme. Merci d'être dans l'affaire suivante, ainsi que Boris Karlamov. Bonjour Boris.
Bonjour Ronald.
Journaliste, police, justice, BFM TV. Boris, la première question est pour vous, parce que vous avez été l'un des rares à avoir vu réellement Owen, qui est donc placé en détention. Dans quel cadre et qu'est-ce que ça a suscité chez vous au moment où vous l'avez vu?
Eh bien, c'était mercredi soir, juste après sa présentation au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry. Juge d'instruction qui l'a donc mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. Et après ce rendez-vous, eh bien, il devait faire face au JLD, au juge des libertés et de la détention. C'était peu avant 22h. Ce juge de la liberté et de la détention, eh bien, il devait statuer sur son placement en détention provisoire. Nous sommes donc entrés dans une salle d'audience de ce tribunal judiciaire. Owen L. arrive par le le box, il est menotté, on lui enlève ses menottes et tout de suite il se met à pleurer. C'est un moment assez saisissant, comme s'il y avait chez lui une prise de conscience à ce moment-là, des faits donc qui lui étaient reprochés. Le juge des libertés de la détention l'appelle à la barre. Il marche d'un pas extrêmement lent, il a une doudoune noire sans manches, un jogging. Il baisse la tête et c'est à ce moment-là, bien que le juge des libertés de la détention lui demande confirmation de son identité, de son nom, de sa date de naissance. À chaque fois, il répond par oui et tout de suite, des énormes sanglots. Il regarde ses pieds. Moi, ce qui m'a frappé quand on était à quelques mètres de lui, eh bien, c'est son air extrêmement juvénile. Owen L, il a 23 ans, mais honnêtement, quand on le voit comme ça, on a l'impression d'avoir face à un enfant de 16 ans, 17 ans, qui est en sanglots permanents, qui n'a de cesse de pleurer. Et puis, à partir de là, vous le savez, cette audience, eh bien, elle s'est terminée par un huis clos, puisque la procureure a demandé une restriction de la publicité des débats. Donc, on a eu que 3-4 minutes avant de sortir de la salle pour l'apercevoir. Mais c'est vrai que on est face à un gamin. On ne se doute pas qu'il est âgé de 23 ans. Et surtout, c'est un gamin comme tous les autres.
Vous étiez sorti de la salle, donc, huis clos. Est-ce que vous savez, par des avocats, hein, c'est même pas une fuite de, comme information, ce qu'il a dit quand on lui a posé des questions?
Non, on sait juste qu'il a confirmé son non-identité, mais on n'a pas eu plus d'informations sur ses déclarations devant le JLD. Son avocate n'a pas souhaité nous répondre à ce sujet-là.
Marilyn Maralès, un meurtrier présumé, placé en détention si jeune, qui visiblement a du mal à s'exprimer, qui éclate en sanglots, après avoir refusé de reconnaître sa responsabilité, a priori, lors de sa garde à vue, qui avait déjà été interrogé auparavant par les policiers, qui avait été mis hors de cause dans un premier temps, avant d'être placé en garde à vue. Est-ce que ça dit quelque chose de sa psyché? Est-ce que c'est l'âge qui est important? Est-ce que c'est la prise en compte de ce qu'il a fait? Comment vous arrivez à l'analyser d'un point de vue psy?
Alors, bon, sous réserve, puisque j'ai pas...
Vous ne l'avez pas rencontré?
Je l'ai pas rencontré, j'ai pas fait d'expertise sur ce jeune homme. En revanche, ce qu'on peut dire, d'un point de vue très factuel, c'est quelqu'un d'impulsif. Les gens impulsifs sont des gens qui ne peuvent supporter absolument aucune frustration personnelle. C'est quelqu'un qui manque d'empathie. Le fait de pouvoir assassiner une petite fille, c'est que même pendant l'acte, rien ne le ramène à la raison, à l'équilibre et à la notion de remords et de regrets. Donc il n'a pas ces sentiments-là. Troisièmement, il est jeune. On sait que l'année d'avant, je crois, ou quelque chose comme ça, il avait eu des actes de violence sur sa sœur.
Sa sœur, qui avait. On parlera de ce profil.
Donc il est déjà probablement il s'est construit avec cette structure là, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui tout d'un coup du jour au lendemain a un passage à l'acte délirant. Donc on comprend que au fur et à mesure, tout à l'heure on entendait dans le reportage qu'il y avait les disputes dans la famille étaient récurrentes. Donc on a quelqu'un qui est asocial, on l'a entendu, qui a besoin de se prendre pour un caïd, ce sont les termes qu'on avait entendus déjà le concernant. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est quelqu'un qui manque énormément d'assises narcissiques, c'est-à-dire il n'est pas sûr de lui, il a besoin de rentrer dans un rôle, de jouer un personnage, parce que pour lui, il probablement qu'il tombe dans un vide et qu'il n'a pas une notion de conscience de sa propre personnalité. Et il rentre dans un monde, puisqu'il joue beaucoup à des jeux vidéo, notamment un dont j'ai oublié le nom.
Fortnite. Mais,
bon, voilà. Et donc, c'est ce qui lui permet de s'évader. À ce moment-là, il a cette frustration. Il rencontre cette petite fille et elle se débat un peu. Et là, quelque chose de... La frustration est impossible pour lui.
Marilyn Maralès, il va y avoir une séquence expertise, psychologue, psychiatre. On va poser des questions à tout le monde. Et quand même, le psychiatre, à la fin de son rapport d'expertise, il va écrire cette phrase définitive que tout le monde connaît maintenant, tous ceux qui nous suivent dans l'affaire suivante et qui suivent BFM TV, cet homme est accessible ou non à une sanction pénale. Ça veut dire, soit la justice va continuer, son travail il sera jugé devant une cour d'assises, ou alors ça veut dire, exit la justice,
cet homme ira dans un hôpital psychiatrique. Quand même, 10 minutes de cette espèce de pétage de plomb, de coup de folie, il est devant son ordinateur, même s'il avait commis des violences sur sa sœur, on parle de violences intrafamiliales, on n'est pas dans des bagarres et des... 10 minutes de pétage de plomb, il sort de chez lui, il suit cette jeune fille, il suit Louise, il la poignarde, il rentre chez lui en courant. Pour un avocat, un bon avocat, qui va s'appuyer sur une expertise, il peut tout à fait dire, cet homme, mon client, n'est pas responsable de son acte à ce moment-là. Est-ce que vous ne trouvez pas, ça s'appelle l'article 122, est-ce que cette affaire, elle ne commence pas à sentir l'article 122, l'irresponsabilité pénale?
Alors, de toute façon, les expertises, qu'il y a l'expertise du psychiatre, il y a l'expertise du psychologue.
Elle en parle du psychiatre, parce que le psychologue, lui, va raconter sa vie, mais à la fin, le psychologue, il a pas un avis qui va l'éloigner. Demande, il va pas l'éloigner de la cour d'assises.
Non, mais on peut demander. Enfin, le juge d'instruction peut tout à fait demander au psychologue. Pour vous, est-ce que cette mise en examen avait conscience de son acte ou pas? On peut demander ça.
Mais ça n'est pas un médecin, le psychologue.
Non, tout à fait.
Le psychiatre, c'est un médecin.
Mais alors, ce que dit le psychiatre, a priori, le psychiatre dit que les deux possibilités, c'est-à-dire qu'en fait, il dit que les deux choses sont possibles. Alors, soit il faut investiguer un petit peu plus pour voir vraiment est-ce que ce jeune homme a des troubles psychiatriques de type schizophrénie, de l'ordre de la psychose. Ouais. Bon, voilà. Donc, il faut peut-être investiguer un petit peu plus.
S'il transforme en acte de violence.
Oui, absolument. Et est-ce que son avocat, un bon avocat, vous disiez, probablement qu'il va se servir de ça. Soit c'était son premier passage dans la psychose, à ce moment-là précis. Et donc, on va le suivre et on va dire, là, il commence à avoir des hallucinations, des délires de tel type, des délires de, enfin, des hallucinations synesthésiques, des hallucinations auditives, visuelles. Et on va rentrer dans cet article 122. Soit non, et on va regarder un petit peu tout l'historique, la construction de ce jeune homme, sur toute son histoire, et on va voir que c'est quelqu'un qui est qui n'est pas dans le champ de la psychose et qui reste dans le champ de la névrose. Ce qu'on remarque là où quand même je suis étonnée, c'est que quelqu'un qui est dans le champ d'un délire quel qu'il soit à ce moment-là n'a pas a priori la présence d'esprit de mettre de l'eau de javel sur toutes ces affaires parce que il prend conscience qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Par ailleurs, et je termine là sur ce sujet-là, les 30 heures, tout à l'heure, vous me posiez la question...
30 heures de garde à vue, il avoue après 30 heures de garde à vue, ce qui peut paraître long, effectivement.
Ce qui peut paraître long. La différence, enfin, quelqu'un d'impulsif va revenir à la raison. Et c'est ce qui explique pour moi les 30 heures. C'est-à-dire que au moment où il prend conscience, il n'est plus sous l'effet de l'impulsivité, il prend conscience, je pense que là, il est quand même dans un état un peu sidéré, et où il se dit, mais il s'est passé quelque chose de grave. Et c'est ce qui peut expliquer les 30 heures. Donc pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le champ de la psychose. Évidemment, je n'ai pas fait cette expertise, donc je n'ai pas rencontré jeune homme.
Boris, on remonte le temps. Il est interrogé de façon assez anodine une première fois.
Absolument.
Sa mère réagit, dit qu'il est soulagé. Donc je vois que vous nous racontiez cela. Et après, qu'est-ce qui fait qu'il est placé en garde à vue? Quels sont les éléments, à un moment, qui amènent à sa garde à vue, qui amènera après 30 heures à ses aveux?
Oui, c'est avec les enquêteurs. Ils vont l'entendre une première fois à son domicile ainsi que sa famille. Mais il va expliquer bien qu'il ne se trouvait pas à cet endroit-là au moment des faits qui lui sont reprochés. Et il y a même une équipe de BFM TV, dans mes souvenirs, Maxime Ranchetter, qui va rencontrer quelques membres de sa famille. Un peu plus tard dans la semaine, il va donc être placé en garde à vue puisqu'il va y avoir ce témoignage déterminant, à savoir celui de sa sœur, sa même sœur qui avait déposé une main courante quelques années auparavant.
Avril 2023.
Avril 2023 pour des faits de violence. Donc c'est grâce à la sœur d'Owen qu'on va pouvoir le placer en garde à vue et l'entendre. C'est vrai que sa sœur, elle va le décrire comme un homme assez violent, nerveux, agressif, ce qui joue de façon intensive aux jeux vidéo. Il a donc ce placement en garde à vue, mais il n'est pas seul en garde à vue. On va le rappeler, puisqu'il y a aussi sa petite amie qui est placée en garde à vue. Il y a les parents qui sont placés en garde à vue. Énormément de monde dans cette famille-là. Les parents, ils vont être relâchés le mercredi à 17h, faute d'éléments probants, puisqu'il y avait ce chef d'accusation de non-dénonciation d'un crime. Mais voilà, donc il va être placé en garde à vue. Il va mettre du temps à avouer, à passer aux aveux. Mais il va y avoir des éléments matériels, puisque ONL, il a des griffures sur ses mains, ce qui est le signe d'une probable altercation quand la petite Louise a souhaité se défendre. Et puis, on va donc retrouver l'ADN, surtout de ONL, sur le corps de Louise. Donc, avec ces éléments probants, on va pouvoir donc le déférer au tribunal judiciaire d'Evry. Mais il va reconnaître bel et bien les faits.
D'accord. Et j'aimerais que vous nous parliez de la famille d'Owen. Qu'est-ce que font ses parents? Parce que c'est une catégorie socio-professionnelle, on va dire, comme les parents de Louise. Hein. On en parlait en préparant cette émission avec Ronald. C'est des CSP plus.
Absolument. C'est un milieu aisé, d'une petite commune de banlieue parisienne. La maman est DRH. ONL est inséré dans la société, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'il est en BTS informatique. Il a fait plusieurs stages en tant que paysagiste. N'est pas un enfant, un étudiant qui a l'habitude de sécher les cours.
La mère DRH dans une grosse boîte.
Dans
à Paris,
une grosse boîte.
Le père,
dans mes souvenirs, est
dans la banque,
exactement.
Il travaille sur la sécurité de la banque,
absolument.
Les dispositifs de sécurité, au niveau aussi.
Ce ne sont pas des gens qui ont par habitude de faire parler d'eux. C'est une famille relativement tranquille. Alors, ONL était déjà connu des services de justice pour des faits de vol quelques années auparavant. Mais ce n'est pas un garçon qui a l'habitude de faire parler de lui. Il a parfois des altercations, il y a quelquefois des bagarres, mais comme un, somme toute, un adolescent. Voilà.
On l'a décrit, le service de justice de BFM l'a décrit comme quelqu'un d'une bonne famille,
oui.
Mais qui jouait un peu le caïd, le petit caïd
du coin. Qui se faisait peut-être passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Il se donnait un air, un comportement, d'une personne qui ne lui ressemblait pas forcément. Et après, il y a eu cette emprise dans les jeux vidéo sans pour autant.
Le lien, il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien aujourd'hui. Hein, nous, de source judiciaire au service police justice de BFM TV, on sait qu'il n'y a aujourd'hui pas d'éléments probants qui expliquent qu'il y a un lien de cause à effet avec les jeux vidéo.
Oui.
Donc,
oui.
Mais ça aussi, ça reste à déterminer par la suite des investigations. Mais il y avait ces pics de colère. Il s'est enfermé dans un univers de jeux vidéo dans lequel il avait tendance à s'isoler. Il voyait de moins en moins ses amis. Il restait seul dans sa chambre à jouer pendant des heures à Fortnite.
Alors, inséré dans la société, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. Il est violent à la maison. Il a besoin de jouer un rôle de personnage, de quelqu'un de fort, de plus puissant qu'il n'est. Il y a des histoires dans sa famille régulièrement. Il n'a pas d'amis. Enfin,
il a tenté de racketter une jeune fille.
Il a du mal à avoir des amis, à s'insérer, à avoir une vie sociale de son âge normal. Il fait, je crois, un stage ou quelque chose en tant que paysagiste, et ça ne fonctionne pas. Donc finalement, il sort de ce cadre-là. Il rentre en BTS, qui est un cursus quand même un peu particulier, qui n'est pas le cursus
académique classique.
Académique classique.
Bon, on passe dans le
donc,
professionnel.
Si vous voulez, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent nous dire. Les jeux vidéo, il est addict aux jeux vidéo. Et un certain jeu dans lequel ce serait intéressant. Enfin, je n'ai pas regardé ce jeu pour comprendre un petit peu comment il y a de l'identification. Ça, ce serait intéressant de le savoir. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent dire pourquoi. Alors. Peut-être qu'il a déjà été vu ou pas par des psychologues quand il était plus jeune, ce serait intéressant de le savoir. Mais quand même, beaucoup d'éléments qui viennent dire ses parents, qui sont justement des gens tout à fait insérés, DRH, dans la banque, etc. Pourquoi ont-ils ou n'ont-ils pas amené leur enfant plus jeune en disant, bon, on a des problèmes à la maison, il a des problèmes de comportement, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je vous raconte la même histoire autrement. Il y a tout un tas de jeunes de son âge qui jouent à des jeux vidéo violents comme Fortnite. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, j'imagine que c'est un jeu violent. Et d'autres, il y en a sûrement d'aussi violents et de plus violents encore. Il y a beaucoup de jeunes de son âge qui restent enfermés dans leur chambre, qui jouent à des jeux comme ça, qui ont des parents structurés. Cette famille est une famille structurée, des parents d'aplomb, une sœur d'aplomb, des parents d'aplomb parce qu'ils vont autoriser... Ça aurait pu aussi être une histoire. Quand elle avait 19 ans, la fille allait au commissariat déposer une main courante parce que son frère l'a brutalisé. Ces gens-là auraient pu dire non, on va rester dans la famille, on dit rien. Donc ça veut dire que ses parents sont quand même capables de faire preuve d'ouverture, d'intelligence. On est dans une famille, encore une fois, structurée. C'est pas non plus le caïd du quartier hein, qui roule les épaules. Et tu l'as vu, Boris. Bon, je sais pas.
Il joue le caïd, mais il a pas
un
grand rôle.
Il joue le caïd, mais bon, c'est pas un bien méchant. Franchement, c'est pas un très méchant jusqu'ici. Et là, d'un seul coup, boum. Donc, je vous fais la même démonstration à l'envers.
Oui, mais Dominique, c'est la question des faisceaux d'éléments. Mm. C'est-à-dire que là, vous me dites... c'est l'association, l'addition de, au fur et à mesure de l'évolution d'un individu et d'un enfant qui est en train de se structurer. Donc, c'est très important, en tant que parent, de pouvoir remarquer et de ne pas... être. Alors, on peut comprendre un peu le déni, hein, de se dire, on n'a pas envie que notre enfant ait vraiment des problèmes lourds. Donc, on essaye d'attendre en se disant, en espérant que ça va se calmer, qu'il va trouver sa place, que peut-être que, pour l'instant, il a pas exactement trouver de quoi s'épanouir, mais ça va venir. Et en fait, mon propos, c'est de dire, quand on a un enfant qui, assez jeune, commence à avoir des comportements qui sont un petit peu à côté, ne pas hésiter d'aller consulter tout de suite un psychologue en disant, voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, parce que le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir dire, bah, moi, je supporte pas mon père. Mon père se prend pour je ne sais qui. Eh bien, ou ma mère, ou ma famille, ou ma sœur, ou que sais-je. Ou moi-même, je ne peux pas me supporter. Eh bien, juste le fait de le dire, le fait que ce soit pris en charge par un professionnel, va aider à sortir, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'éviter la question de l'impulsivité, parce que qu'est-ce que c'est que l'impulsivité ? C'est quelque chose qui sort de façon violente et qui était... à l'intérieur, enfermé. Donc voilà.
Boris, une dernière question, et on voulait avec Dominique, parce qu'on a beaucoup parlé de ce jeune homme, 23 ans qui est en détention, mais on voulait, parce que l'affaire a beaucoup choqué, c'est un meurtre, et la disparition, la mort de la petite Louise, on voulait avec Dominique que vous nous parliez de Louise, parce qu'on a aussi des victimes dont on parle peu, et on parle plus de leur meurtrier présumé en l'occurrence, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Louise, qui était-elle ?
Louise, c'est une petite fille. Une enfant de 11 ans qui avait un parcours scolaire exemplaire, toujours de bons résultats, extrêmement apprécié par ses camarades avec de nombreux amis, qui avait divers passions, qui était très impliquée, on va dire, dans la vie sociale de son collège. Elle participait à diverses activités. Ce jour-là, elle avait terminé ses cours un peu plus tôt, mais elle était restée au collège pour participer un peu à la vie si ce n'est étudiante, associative exactement, de son collège. Et c'est pour cela, bien qu'elle est rentrée, rentrer un peu plus tard à son collège, mais une adolescente vraiment lambda, sans problème particulier, insérée socialement, avec de très bons résultats et qui avait la joie de vivre. Hein, quand on a vu cette photo apparaître sur les réseaux sociaux tout d'abord et après sur les écrans de télévision, notamment sur BFM TV, c'est vrai que les parents peuvent très bien s'identifier à elle. En tant que ça pourrait être ma fille aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce parallèle de ça pourrait être mon enfant. Quand on sait que Owen, elle, il avait tenté de racketter une petite fille auparavant, quelques jours avant, et que malheureusement, ce jour-là, eh bien, ça tombe sur Louise. Pour les parents, il y a eu un déclic. On aurait pu se dire ça aurait pu être ma fille ce jour-là, quoi. Mais voilà, c'est une fille, c'était une enfant extrêmement appréciée et d'une gentillesse rare, selon les témoignages recueillis par les équipes de BFM TV sur place.
Et on pense évidemment aux parents de Louise, parce que c'est pas parce qu'on parle d'Owen, le grand, et de sa famille, qu'on pense pas à eux, on pense d'abord à eux. Mais c'est vrai qu'on se dit toujours, ça pourrait être ma fille, mais il faut aussi se dire parfois, ça pourrait être mon fils.
Ouais.
Je pourrais être le père de l'auteur. Et c'est pour ça que quand on a cette discussion, il y a tout un tas de personnes, comme moi sans doute, qui ont des fils, qui n'ont pas toujours été faciles à élever, qu'il faut parfois recadrer un peu, qui ont joué à des jeux vidéo dans une famille à peu près correcte, où ça s'engueule, parce qu'on s'engueule tous dans des grosses familles, des grandes familles, de temps en temps. Et donc ça fait aussi peur que de se faire un jour enlever et massacré sa fille.
Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Affaires Suivantes pour évoquer donc le meurtre de la petite Louise. Dans un instant, Dominique, le cold case de la semaine. Nous sommes 20 ans après. Et la question à laquelle le pôle de Nanterre tente désormais de répondre, qui a tué Christiane Como? Elle a été retrouvée sans vie dans un bois de lin. Deux membres de sa famille sont sur le plateau d'Affaires Suivantes dans un instant. A tout de suite.
BFM Radio.
Retour en direct sur le plateau d'Affaires Suivantes et nous allons évoquer ensemble le cold case de la semaine. Une question. Qui a tué Christiane Como, retrouvée dans un bois de lin en 2005 après 20 ans d'enquête et de piges jamais concluantes? La question reste sans réponse, mais l'enquête a été reprise par le pôle Affaires non élucidées de Nanterre avec comme point de départ des analyses ADN. Avant d'échanger avec nos invités, Dominique, voici les informations à connaître avec Elisa Tranin.
Ce sont des petits détails qui vont rapidement faire penser à ses proches qu'il est arrivé quelque chose à Christiane Como. Ce matin du 22 octobre 2004, la quinquagénaire est rentrée des courses. Elle a garé sa Renault Twingo dans son box, mais contrairement à son habitude, elle n'a pas verrouillé la porte du garage. Dans l'entrée de son appartement, elle a déposé son sac, son téléphone et ses courses, mais elle n'a même pas pris le temps de ranger les surgelés. Ce jour-là, enfin, Christiane était attendue à 14h au boulodrome de Chassieux où elle travaillait comme serveuse. D'ordinaire ponctuelle et sérieuse, elle ne s'y présentera jamais. Cette grand-mère, décrite comme bienveillante, a-t-elle été enlevée sans que personne ne s'en aperçoive? L'absence de témoins est impensable pour sa petite fille.
Dans son quartier où tout le monde surveille les agissements de tout le monde et de se dire que personne n'a rien vu, rien entendu, c'est une route assez passante, c'est un quartier assez passant aussi, et c'est pas possible que personne ne sache rien.
4 mois après cette étrange disparition, le squelette de Christiane Como est retrouvé dans un bois à une vingtaine de kilomètres de chez elle. La quinquagénaire a été exécutée de 2 balles dans la tête, l'arme du crime. Un 22 long rifle, une carabine commune chez les chasseurs du coin. Plusieurs d'entre eux sont interrogés, tout comme les boulistes du club de Chassieux. Mais faute de suspects, le dossier est refermé. En 2022, il est finalement confié au pôle des affaires non élucidées. Des témoignages aux analyses balistiques et ADN, tout doit être repris depuis le début pour tenter d'élucider le mystérieux crime de Christiane Como.
Pour en parler, Dominique, nous accueillons Samuel Le Temple. Bonjour. Vous êtes le fils cadet de Christiane Como, à vos côtés, votre ex-femme, Isabelle Desbuissons. Merci également d'être là. Vous continuez le combat avec votre ex-mari, évidemment tout présent, fait. Puisque vous aviez vécu notamment ces jours tragiques ensemble. Et Marion Garnier, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, réalisatrice, autrice de ce livre, Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, Revivez l'enquête, paru chez Larousse. Vous aviez 34 ans. À l'époque des faits. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée et comment vous expliquez que 20 ans après, on en soit toujours là?
Oui, je me souviens très bien de cette journée. Oui, elle a été assez
éprouvante.
Oui, éprouvante, oui. Ouais.
Enfin, journée dont on ne pourra jamais voilà.
Non, c'est vrai que c'est resté gravé dans la mémoire.
Comment ça se passe? Parce qu'au début, c'est l'inquiétude de ce club de boulistes.
L'inquiétude de la disparition.
Ouais. Mmh. Ouais. Vous voyez, c'est clair que... au début, il y a le patron qui vient voir aussi son employé, chercher son employé. On trouve pas ma mère. C'était vraiment terrible. En fait, c'est une journée qui a été vraiment.
Samuel, vous êtes inquiet tout de suite ou vous vous dites bon, elle est peut-être partie une journée, elle va revenir.
C'était pas dans ses habitudes. Elle était cadrée, et puis elle devait aller travailler. Tout était organisé. C'était.
Donc pour vous, c'est grave dès le départ. Il s'est passé quelque chose.
Du départ, oui.
Vous allez chez elle, parce qu'on voit dans le sujet d'Elisa Tranin, donc on retrouve chez elle ses courses, elle est rentrée de faire ses courses, les surgelés sont là dans les salles. Vous allez chez elle tout de suite?
Voilà, je suis arrivé tout de suite tout seul avec mon frère qui est arrivé derrière moi.
La
gendarmerie, c'était toute, j'étais tous.
Tout le monde était là, déjà?
Ah oui, c'était.
Ils les attendaient
juste pour une disparition?
Une disparition, oui, bizarrement. Et du coup, après, on m'a posé les questions, savoir si je savais où ma mère. Non. Et je lui dis, il y a une chose qui n'est pas normale, c'est que son box ne soit pas verrouillé. Quoi. C'est-à-dire qu'après avoir constaté que les courses étaient en place, son téléphone portable, son sac à main dans l'entrée, on va au box souterrain où on voit la voiture extrêmement bien garée, comme elle le faisait tout le temps, c'était la TC Maniac.
Qui n'est pas une Twingo, qui est une Renault.
Non, 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 là, ça, c'est une vieille photo. C'était une Twingo.
D'accord. C'est une Twingo.
Là, c'était la Renault.
C'est une ancienne photo. Voilà.
J'aurais mieux fait de
voilà. Donc, je non, non, mais elle était super bien garée. Le box fermé, mais pas verrouillé. Et ça, c'était impossible.
Et on ne trouve pas la clé.
Non, mais pas de clé.
Plus de clé de voiture, plus de clé du box.
Marion, on ne trouve pas la clé.
En fait, dans cette affaire, dès le début, la famille voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que Christiane Como, c'est quelqu'un d'assez maniaque, je dis ça gentiment, organisé, mais qui vit avec des rituels. Donc en fait,
elle deux enfants, six petits-enfants, totalement tranquille.
Voilà, et elle fait toujours pareil. Donc ce jour-là, elle a été faire des courses le matin, elle est arrivée chez elle, elle a laissé sa voiture devant sa résidence, le temps de déposer ses courses et son sac à main, et ensuite, comme tous les jours, elle est partie dans son garage. Elle a mis sa voiture, elle a verrouillé sa voiture, elle est sortie du box, elle a commencé à fermer la porte du box, et c'est sans doute à ce moment-là qu'elle s'est fait agresser, puisqu'on retrouve dans son appartement son sac à main et les courses, qui laissent penser qu'elle n'est jamais remontée chez elle, et que les clés, le box, la voiture et l'appartement étaient sur le même trousseau et tout a disparu.
Pardon Marion, mais on est dans une espèce de cluedo, parce que si on pose tous ces éléments, c'est vrai que c'est... Alors, elle ferme sa voiture, elle ferme la porte du box.
Elle n'a pas le temps de la verrouiller.
Elle n'a pas le temps de la verrouiller, mais à ce moment-là, où sont son sac à main et ses courses?
C'est dans
l'appartement.
Elle est montée, posée ses courses dans l'appartement.
En fait, voilà. Elle
est descendue garer sa voiture.
Son rituel, c'était ça. C'était un rituel chez elle. Elle avait ses courses, elle posait ses courses, ses sacs, son sac, son téléphone à la maison. Elle se dépêchait, elle courait vite parce qu'elle avait peur qu'on règle sa voiture. Rentrait sa voiture dans son box. Elle était très maniaque, maladif, je dirais même. Elle rentrait sa voiture, elle fermait son box et je l'ai vu jusqu'à trois fois revérifier s'il était bien fermé.
Elle avait des tocs.
Des tocs.
Ce qui laisse penser dans cette histoire de disparition, en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est que souvent dans les affaires de disparition, on ne sait pas où la personne a disparu, on ne sait pas à quelle heure et parfois même on ne sait pas quel jour. Là, on sait qu'elle a disparu entre 11h30 et 12h30 puisque des voisins l'ont vu rentrer. On sait où, en fermant son box, puisqu'on connaît parfaitement son parcours. Et on sait la date. Et pourtant, les gendarmes ne font pas grand-chose, les premières constatations, mais ne font rien et ne croient pas la famille qui dit « ça n'est pas normal ».
Elle vient de dire qu'ils arrivaient vite, qu'ils étaient déjà dans l'appartement.
En fait, ils sont venus parce que je pense que c'est parce que c'est pas la famille qui les appelle, c'est l'employeur.
C'est l'employeur qui dit « j'ai une employée qui a disparu ».
Donc, ils arrivent pensant, je pense, découvrir quelqu'un de malade dans l'appartement. Ouais, en fait, c'est pour ça.
Entre ce jour et la découverte du corps de votre mère, il va se passer 4 mois, elle est retrouvée dans un bois avec 2 balles, au moins 2 balles, et pas de suspect, toujours rien. On a un nom qui est évoqué à un moment, Patrick Gâteau, qui est déjà soupçonné pour une autre affaire, mais rien. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gendarmes? Comment ils expliquent le fait qu'il n'y ait pas de...
Il n'y a pas
de suspect, outre cette piste Gâteau qui va s'avérer être une mauvaise piste à priori.
Disons que le manque d'empreintes, bon, il y a eu des loupés. Comme je vous dis, le maître chien n'est pas arrivé 2 jours après. Enfin, je me rends plus, un jour ou 2 jours après. En fait, le chien ne sentait plus rien du tout. Enfin, il y a eu plein de trucs. Le manque d'empreintes, de traces ADN et autres, ont fait qu'il n'y avait pas de suspect immédiat, quoi. Et
pour Patrick Gâteau, voilà, il y a eu des suspects un petit peu. Il y a quand même eu des gens placés en garde à vue. Mais le problème, c'est que ces suspects, ils sont apparus finalement assez tard dans l'enquête et que c'est très compliqué de vérifier un alibi 5 ans après, surtout quand la personne en question n'a pas d'emploi du temps très marquant. C'est compliqué.
Le scénario de la disparition, ça peut être quoi? Donc, elle est dans le garage, elle ferme la porte et là, quelqu'un arrive.
Elle l'oblige
à le suivre, c'est ça?
Oui, puisqu'il n'y a pas de traces de sang dans le garage. Ça, on le sait. Ça, ils ont fait quand même. Ils ont passé le garage et l'appartement Blue Star. Il n'y a pas eu d'agression. Elle n'a pas été tuée là. Ça, on le sait.
D'accord. Donc, quelqu'un l'emmène. Quelqu'un l'oblige à le suivre. Part avec elle. Donc là, on ne peut pas trouver d'ADN. ADN sur quoi? Puisqu'il part avec elle, donc on ne va pas trouver d'ADN.
Il y a eu des hypothèses, abracadabrante, excusez-moi du terme, par rapport au garage, qu'elle aurait pu se faire assommer, partir, perdre la boule. Enfin,
il y a eu beaucoup d'hypothèses qui n'étaient pas bonnes.
Mais que la découverte du corps rend complètement caduque de toute façon.
Tout à fait.
Donc, il y a plusieurs lieux dans l'affaire. Il y a le lieu de l'enlèvement, la première agression, le lieu de la séquestration, sans doute une voiture, elle est partie dans la rue, c'est quelqu'un qui avait du caractère, Christiane Como, elle aurait crié, le lieu du meurtre et le lieu de la dépose du corps, le bois où on retrouve le corps. Donc ça complique, mais en même temps, c'est autant de chances de trouver des témoins.
sachant que c'est quelqu'un qui peut tout à fait l'avoir obligé à le suivre tout près d'ici, dans l'immeuble, pas très loin, et puis ensuite l'avoir tué ici et déposer son corps plus c'est tard.
Ça. Oui. Parce que les garages souterrains sont quand même bien cachés. Donc
Ronald Ladé l'a retrouvé dans ce bois du département de l'Ain, à 20 km de Chassieux, d'où elle habite.
Elle connaissait ce lieu ou pas?
Non,
pas forcément. Donc
elle n'y serait pas allée de son propre chef, a priori.
Non, pas du tout.
Pas à votre connaissance.
Par contre, il peut être connu par des pêcheurs, des chasseurs, voilà, des promeneurs aussi.
C'est un lieu qui est près d'un camping, donc qui peut être connu, effectivement.
Découverte fortuite par un homme qui se déplace dans le bois et qui trouve le corps. Elle a reçu 2 balles dans la tête, Ronald l'a dit.
Oui. Dont une dans la nuque, ce qui n'est pas rien.
Dans la nuque. Oui. Le corps est abîmé, forcément, donc on ne peut pas faire d'expertise pour savoir si elle a subi des violences sexuelles. Mais on nous parle aujourd'hui, donc le dossier va aller au pôle Colcaisse, est au dossier pôle Colcaisse.
Depuis 2 ans.
On nous parle d'ADN, alors c'est quoi cet ADN?
Alors, c'est d'après ce que nous, on sait, c'est des scellés qu'ils ont retrouvés, qui avaient été, perdus pendant un moment, qui n'ont pas été analysés à l'époque.
Peut-être sans doute lors du transfert des...
Parce que il y a eu un peu de cafouillage, je pense. Mais en fait, ils ont repris mon ADN, celui de ma tante et de mon frère, pour reconstituer celui de ma mère, je pense. Hein, et pour arriver à ces analyses. Et on est encore en attente.
Travailler avec ces technologies
d'aujourd'hui. Il est où cet ADN? Vous ne savez pas où il est? Si c'est sur... sur des restes de vêtements?
Non, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un ADN. On sait qu'il y a des scellés, les vêtements qu'elle portait, mais on ne sait pas encore ce que ça donne. Et vous savez qu'au pôle Colcaisse, ils sont assez avares d'informations.
Ils préfèrent travailler discrètement. Mais ils travaillent bien, mais discrètement.
Oui, pour nous,
malheureusement,
en tant que famille.
Il y a eu plusieurs gardes à vue. Il y a eu ce suspect qui a été un peu plus médiatisé que les autres, Patrick Gâteau. Mais est-ce que vous avez une piste, une idée, une thèse, une explication?
On en a plein.
Alors, comment vous dire? Quand vous arrivez à une chose comme ça, vous n'avez plus confiance en personne. Mm-hmm. Tout le monde est
les un familles, potentiel. Les voisins, tout est...
Famille, voisins, potentiel coupable, travail, tout.
Et tout le monde est innocent. Mm-hmm. Mais en fait, c'est terrible comme sensation.
Évidemment.
Et oui, il y en a que j'ai plus soupçonné que d'autres.
Vous soupçonnez encore aujourd'hui?
Et des personnes qui entouraient Christiane qui n'étaient pas forcément... bien pour elle. Mmh. Ben voilà.
Oui, c'est.
Mais ça n'a rien donné.
Je vous ai interrompu, vous disiez son ancien.
Son ancien petit copain. Par exemple, au début, clairement, je lui ai dit en face, je lui ai dit, vous êtes pour moi le suspect numéro 1. Parce que bon, c'était dans le on va dire, dans le feu de la. Enfin, dans le.
Mmh. Réponse c'est... du type.
Ah, et ça l'a choqué.
Voilà. Ben, disons que, pour explication, c'est qu'en fait, Christiane l'avait conduit. Parce que lui voulait refaire sa vie avec Christiane ne voulait pas, parce que autrement elle aurait été obligée de partir loin de sa famille, donc loin de nous, loin de ses petits-enfants, c'était inadmissible. Et donc elle l'a conduit, et puis bon, voilà. Mais c'est une personne, entre autres, il y en a tellement.
Mais bon, ça c'était, on va dire, dans le début, évidemment. Où j'étais vraiment, je cherchais ma mère, j'étais vraiment dans le feu de l'action, et je lui dis clairement, enfin, je suis quelqu'un de très franc, moi, très franc, mais par contre, je dis, je vous accuse pas.
Mais ça n'a rien donné.
Je ne vous accuse pas, par contre.
Marion, la même question. Est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est vrai que cet individu, on pouvait penser à lui, mais le meurtre est quand même assez particulier. Hein. C'est parce que c'est 2 balles dans la tête, une dans la nuque, à bout, pas à bout touchant. Parce que,
ça ressemble à une exécution. Plus
ça ressemble vraiment à une exécution. Il enfin, faut leur enlever, transporter. Donc cet homme-là, ça semble quand même un peu gros pour lui. Il y a la dernière personne mise en garde à vue... C'est un homme qui, par la suite, a été mis en cause des affaires d'agression sexuelle sur sa fille. Et lui, c'est vrai qu'il avait déjà agressé plusieurs femmes en se jetant sur leur poitrine. Mais en même temps aussi, comme c'est des pistes qui ont été vues tardivement, c'est difficile de vérifier. Et on se heurte un petit peu à ce mode opératoire étrange. Et quand même, ils ont beaucoup fouillé sur les délinquants sexuels, sur les gens... Qu'est-ce qui nous dit que le fait qu'on lui ait retiré sa culotte, c'est pas une mise en scène? C'est tout à fait possible. On l'a vu dans d'autres affaires. C'est peut-être pas le.
Ça a été évoqué.
C'est peut-être pas le.
Ça fait partie des.
Le centre de l'histoire.
Des questions qui restent. Merci d'avoir été dans l'affaire suivante. Je précise qu'il y a une association pour celles et ceux qui veulent vous aider pour payer tout ce qu'il y a à payer parce que les procédures sont extrêmement longues. Voici, elle s'affiche l'adresse mail christiane.como@hotmail.fr et ce numéro de téléphone 07 68 00 86 17. Merci beaucoup d'avoir d'avoir été sur le plateau d'affaires
suivante. C'est nous qui vous remercions.
Nous continuerons à suivre les développements, même discrets, du pôle de Nanterre. Merci beaucoup. On en vient à l'invité de la semaine. L'invité de la semaine est régulièrement sur les plateaux de BFM TV, Dominique, et d'affaires suivantes. Il s'agit de Maître Emmanuel Franck qui publie un ouvrage « Comment pouvez-vous les défendre ?» en collaboration avec Caroline Glorion. Bonjour Maître Franck. Oui,
bonjour.
Vous êtes notamment connu, mais pas seulement, pour être l'avocate de Cédric Jubilard. Et dans ce livre, vous allez nous raconter vos pérégrinations quotidiennes, des parloirs aux prisons, les mois de préparation avec la cour d'assises et les doutes qui peuvent parfois être les vôtres quand on est avocat pénaliste. Et Dominique, il y a une question pour vous.
Non, en fait, c'est une question qui a été écrite par Ronald. J'aurais aimé l'écrire. Il me propose de la poser et je vais la poser, mais c'est sa question.
Nous, on parle HTML.
Oui, je vous écoute.
Elle est excellente, j'adore cette question.
Vous adorez cette question, très bien. Espérons que vous adoriez la réponse.
Je ne sais pas si vous allez l'aimer. Vous écrivez dans votre livre que plaider pour un homme coupable, c'est dans 95% des cas. D'accord ? Plaider pour un homme coupable dans 95% des cas. Ça veut donc dire que Cédric Jubilard fait partie des 5%.
Ben, pas lui. Oui, tout à fait, Dominique, mais vous savez, je crois que la justice n'apprend que peu de choses de ces dysfonctionnements passés, et l'erreur judiciaire y trouve encore et toujours une place de choix, et donc nous avons malheureusement encore 5% de dossiers dans lesquels
Cédric Jubilard, c'est l'erreur judiciaire.
Cédric Jubilard, c'est la chronique d'une erreur judiciaire annoncée, et nous l'avons dit depuis le début, et nous continuons à le dire.
L'autre question que tout le monde vous pose, que tout le monde pose souvent aux avocats pénalistes, c'est celle-là. Donc, comment pouvez-vous les défendre ? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés, parce qu'il y avait des clichés que vous avez choisi d'écrire ce livre ? Est-ce que c'est pour répondre à ces préjugés ou à ces clichés ?
Alors, c'est pour répondre à cette question qui est peut-être la question la plus couramment posée aux avocats pénalistes. Et on est dans un domaine, le domaine criminel, on est dans un domaine qui est rempli de préjugés et où on se rend compte, où j'ai pu me rendre compte que finalement, ça n'était qu'en étant confronté à des cours d'assises que des personnes, alors soit parce qu'ils ont été jurés, soit parce qu'ils ont été membres de famille, soit parce qu'ils ont été simples spectateurs pendant un procès d'assises, on se rend compte que les préjugés tombent à ce moment-là. Et donc, moi, j'ai voulu, au travers de ce livre, faire passer les gens de l'autre côté, dans les arrières-salles des cours d'assises, dans les parloirs des prisons, au plus proche finalement des criminels et du contact que nous, avocats, nous avons de façon privilégiée avec le crime et les criminels.
Et donc, comment pouvez-vous les défendre ? Il y a deux questions. La première question, c'est comment faites-vous pour les défendre ? Comment trouvez-vous des arguments ? Et puis, il y a l'autre question, c'est vraiment dégueulasse de défendre des gens comme ça. Comment vous pouvez faire un boulot pareil ?
Oui, il y avait ces deux aspects-là dans le titre, qui sont les deux aspects de cette question. Alors, il y a d'abord comment peut-on les défendre, c'est-à-dire comment peut-on trouver des arguments. Mm-hmm. Les arguments, on les trouve toujours, parce qu'en réalité, un individu est le résultat de ce qu'il a vécu et qui est en interaction avec ce qu'il vit autour de lui. Autrement dit, il y a toujours dans le crime quelque chose de structurel et quelque chose de conjoncturel. Et donc, la charge de l'avocat, c'est simplement d'expliquer, jamais justifier le crime, mais d'expliquer ce qui a pu se passer dans la tête d'un criminel. Et puis, une fois qu'on a répondu à cette question, en réalité, on a répondu à la deuxième. Comment pouvez-vous les défendre ? Eh bien, tout simplement, en humanité, et parce qu'on ne défend pas le crime, on défend le criminel, et donc c'est bien d'humanité dont on parle.
Votre livre commence une longue partie sur le cas d'un jeune violeur en série, présumé, qui est condamné à une perte très lourde. Et en fait, ce que vous expliquez, c'est justement cela. Mais de façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans le concret de votre travail. C'est-à-dire qu'au-delà des concepts et de ce que vous venez nous dire, on voit comment quelqu'un qui, même lui, se défend très mal parce qu'il a une attitude, des mots, et une inconscience totale de ce qu'il a commis, et puis qu'à un moment, en fait, il y a quelque chose qui... Vous arrivez à le faire passer de l'autre côté.
Et c'est un peu ça aussi, le rôle de l'avocat, c'est parfois de défendre un client malgré lui. C'est-à-dire d'essayer de chercher, à force de discussion, à force d'échange, d'essayer de chercher ce qui a pu se passer dans sa tête, là où parfois et souvent lui-même ne le sait pas.
Mais c'est pas lourd de le faire pour lui, de quelqu'un qui a commis des crimes atroces, et je pose la question sans jugement, mais d'aller faire un travail que cette personne n'est même pas capable de faire elle-même.
Mais figurez-vous que le temps judiciaire n'est pas le temps de la psychothérapie.
Oui. C'est-à-dire que aussi,
exactement. Et c'est-à-dire que nous, pour le défendre, il faut qu'il arrive devant une cour d'assises en étant, je dirais entre guillemets, un produit fini, alors qu'on sait que le travail psychothérapeutique prend des années. Donc on essaye de faire un peu en accéléré avec lui ce qu'il fera à plus long terme par un travail, un vrai travail de fond.
Un jour, vous étiez venu chez nous dans Affaires suivantes ou dans une autre émission sur, on parlait de Cédric Jubilard. et vous alliez plaider cette affaire. Vous vous prépariez à aller plaider l'affaire dont Ronald vient de parler, ce violeur en série à Toulouse. Et vous aviez eu cette phrase, parce qu'il n'a pas simplement violé. Hein. Oui, après, il s'est débarrassé de sa victime inconsciente, il l'a jeté dans une poubelle, dans un conteneur. Il a jeté son corps dans un conteneur. Après l'avoir agressé, violé, il a refermé le couvercle. Et vous aviez eu cette phrase, vous aviez dit, ça va être dur, et la poubelle, ça va être encore plus dur. Et comment est-ce que vous avez fait?
Mais parce que
aller jusque-là, et quand on vous a dit, et en plus il l'a acheté dans une poubelle. Qu'est-ce que vous avez eu comme argument pour le défendre?
Et oui, parce que la poubelle représentait, évidemment, tout le monde l'a compris, quelque chose de très symbolique et quelque chose qui était effectivement terrible, au-delà, bien sûr, du crime qui avait été commis. Et on est remonté dans le temps avec lui, et il est remonté dans le temps aussi. Et comme très souvent, en matière de viol, le lien était à faire avec la mère. Il avait de la femme une image calquée sur celle de sa mère, et c'est ça que nous avons expliqué. Vous savez, dire, on parle de l'enfance malheureuse, ça va bien au-delà de défendre un homme, c'est d'essayer de faire réfléchir les jurés sur le parcours de ce garçon qui avait calqué l'image de la femme sur l'image de sa mère. C'était une image déplorable, il y avait toute une symbolique qui allait avec, et ce n'était pas pour rien qu'il demandait à chacune de ses victimes, au démarrage, fais-moi un câlin, comme le ferait une maman. Et c'était le refus qui déclenchait le reste.
Est-ce que vous êtes consciente que, pour les téléspectateurs d'Affaires Suivantes, il y a quand même des gens qui vont dire, mais c'est déjà le début d'une excuse. Et ce que vous dites, j'ai noté la phrase, défendre, ce n'est pas excuser, rien ne justifie le crime, tout pour l'expliquer. La frontière, elle est mince. Elle est quand même mince, en tout cas pour beaucoup de personnes normales, de citoyens qui vont regarder cette émission et qui vont se dire, on est déjà dans l'excuse, donc dans la culture de l'excuse, c'est quelque chose qui revient beaucoup.
Alors on n'est absolument pas, justement, c'est ce que j'écris tout au long de mon bouquin, où je prends le soin, parce que je le pense évidemment, en permanence de dire que rien n'excuse le crime, que je ne défends jamais le crime, que je ne considère pas le viol comme étant quelque chose de bien, encore moins le meurtre. Par contre, je défends des hommes. Et si rien n'est excusable, tout est explicable, les mots ont un sens, et ces deux termes-là sont bien différents.
Et pire, vous êtes une avocate, donc on peut s'attendre à ce qu'un violeur prenne un avocat, un homme pour le défendre, c'est... Vous êtes une avocate, donc à chaque fois que vous le défendez, ça va être un peu violent, vous faites du mal aux femmes. Alors, ou à la cause.
C'est très sexiste et très antiféministe, ce que vous êtes en train de dire. Alors d'abord, ça partirait du principe...
Moi, je parle de la cause des femmes et des femmes qui se font agresser. Ouais. Donc c'est pas,
dans ma bouche, j'ai pas dit que vous l'étiez.
Mais ça l'était pas, en tout cas.
Ça serait déjà partir d'un premier principe qui est qu'un homme trouverait que le viol, c'est moins grave que ne pourrait le considérer une femme. Déjà, je pense que sur ça, personne n'est d'accord. Et deuxièmement, je vous disais que c'était très antiféministe, parce qu'en quoi une femme serait plus atteinte de sensiblerie ou plus atteinte d'un certain nombre de choses qui feraient qu'elle ne pourrait pas défendre le viol.
Je veux dire que les femmes qui vous regardent doivent se dire elle n'est pas de notre côté. Elle ne défend pas les femmes.
Eh bien, c'est une méconnaissance totale du métier d'avocat, puisque je ne défends pas le viol, je défends un violeur. Et donc, que je sois un homme ou une femme est indifférent, et c'est la raison pour laquelle on considère toujours que les avocats n'ont pas de sexe, n'ont pas de religion, ils sont avocats, et c'est tout.
Je vous pose une dernière question, oui ou non, s'il vous plaît. Vous vouliez être psy, est-ce que ça explique votre approche de ce métier-là?
Je pourrais pas répondre par oui ou non, je vais faire une petite phrase même s'il me reste pas beaucoup de temps. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être psychologue pour s'intéresser aux choses humaines, et je pense que tout citoyen doit s'intéresser aux raisons du crime et du passage à l'acte.
Merci beaucoup, Maître Franck.
Merci.
Merci à vous.
Spectateur d'Affaires Suivantes, à votre dernier ouvrage. Merci beaucoup, Dominique. Anne Seften pour la suite du programme. Merci beaucoup.
Semaine prochaine.